France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Antoine Marette, bonjour.
Bonjour Lévia, bonjour à tous. Nous consacrerons une grande partie de cette édition au mouvement des Gilets jaunes et également aux manifestations lycéennes. Hier, les confrontations avec les forces de l'ordre se sont très nettement durcies. Nous ferons le point sur la mobilisation à la mi-journée.
La crainte cette semaine, c'est la mobilisation de samedi. L'acte 4 des Gilets jaunes, des appels à manifester et sèment sur les réseaux sociaux.
L'invité du journal sera le député LREM Mathieu Orphelin, ancien militant d'Europe Écologie Les Verts, alors que les principaux dirigeants de la planète sont réunis en Pologne pour la fameuse COP24 sur le réchauffement climatique. Ils suivent avec inquiétude le recul du gouvernement sur les taxes des carburants.
Dans l'actualité internationale, la Chine, qui s'insurge contre l'arrestation au Canada, sur demande des États-Unis d'une haute dirigeante du géant chinois des télécoms, Huawei. Elle est soupçonnée de violation des sanctions américaines contre l'Iran.
Midi 55, seconde partie de la Grande Table avec vous, Olivia.
La question des inégalités, fracture française, mais fracture mondiale aussi, nous en parlerons avec deux économistes, le français Gaël Giraud de l'Agence française de développement et l'américain James Galbraith, professeur à l'université du Texas, l'auteur de l'État prédateur. Ils seront avec nous à partir de midi 55.
À tout à l'heure. La crise des gilets jaunes, une fois de plus au centre des débats aujourd'hui. Chaque jour, on se rapproche un peu plus d'une crise généralisée dans le pays. Et c'est la manifestation de samedi qui fait craindre le pire, des situations de très grande violence et pas seulement dans la capitale. Nous allons bien sûr y revenir dans ce journal. Mais intéressons-nous pour commencer au mouvement des lycéens qui a débuté il y a une semaine. Hier, le nombre d'établissements bloqués était en baisse, mais les confrontations avec les forces de l'ordre se sont très nettement durcies. Deux adolescents ont été grièvement blessés par des tirs de flashball. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, en a appelé hier à la responsabilité de chacun. Alors à la mi-journée, où en est-on de cette mobilisation lycéenne? C'est ce que on va tenter de savoir maintenant avec Cécile de Kervas-Doué. Bonjour, vous êtes devant le lycée Lavoisier dans le 5e arrondissement à Paris. Quelle est l'ambiance sur place?
Alors écoutez, ici, le lycée Lavoisier dans le 5e arrondissement, c'est un lycée bien classé, très sélectif, m'a-t-on dit. Pourtant, ça n'empêche pas les lycéens d'avoir choisi de bloquer l'entrée dès 6h du matin. Donc depuis 6h du matin, le lycée est presque entièrement bloqué. Alors ils ont laissé entrer, c'est vrai, les élèves de classe prépa avant d'entasser une montagne de poubelles à l'entrée du lycée. À Paris, d'autres lycées UP, comme Charlemagne ou Henri IV, sont également bloqués. Pourtant, comme ici, les lycéens se disent solidaires des gilets jaunes. Il n'est pas besoin de souffrir de famine pour dénoncer la famine, m'ont-ils expliqué. Leur mobilisation s'appuie donc avant tout sur la dénonciation de l'injustice sociale criante en France. Ils demandent aussi le rétablissement immédiat de l'ISF pour pouvoir financer les services publics et notamment l'éducation. Ils fustigent les suppressions de postes d'enseignants, ils fustigent l'augmentation des tarifs pour les étudiants étrangers et bien sûr, ils fustigent le système Parcoursup qui établit selon eux une sélection qui, disent-ils, est avant tout une sélection sociale. Ils espèrent donc pouvoir faire tache d'huile, surtout à Paris, où finalement peu de lycées sont complètement bloqués. Un rassemblement de lycéens parisiens doit d'ailleurs avoir lieu tout à l'heure à 13h à Jussieu.
Merci à vous, Cécile de Kervas-Doué. Dans le sillage des Gilets jaunes, les routiers sont appelés à une grève à partir de dimanche soir par la CGT et FO. Les deux syndicats dénoncent une récente décision du Conseil d'État, décision qui a annulé des majorations de 25 et 50% aux heures supplémentaires des chauffeurs. Et ce matin, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a reçu les principaux syndicats du transport routier. La CGT-FO appelle pour l'instant à maintenir la grève. Jean-Marc Lambert de la CGT Transport nous explique pourquoi au micro d'Hakim Kasmi.
Pour l'instant, nous maintenons notre appel puisque nous avons fait comprendre à Madame la Ministre que nous voulons un engagement de la partie patronale qu'elle ne touche pas à l'indemnisation des heures supplémentaires le temps que les dispositifs passant dans la loi d'orientation des mobilités dans un délai 7 à 8 mois, du côté patronal. On sait qu'il y en a certains qui vont tenter de mettre en œuvre la suppression de l'indemnisation des heures supplémentaires telles qu'elles existent, voire sur d'autres aspects. Donc nous exigeons aujourd'hui, la CGT, que les patrons s'engagent par un accord qu'on peut faire ce soir, demain matin, à ne pas toucher à l'ensemble des indemnisations qui touchent à la rémunération des conducteurs. Bien entendu, si on a un accord qui va dans ce sens-là, nous annulerons l'appel à la mobilisation à partir de dimanche soir, 22h. S'il y a un mouvement qui est maintenu pour dimanche soir, la forme du mouvement, les salariés du transport routier qui seront en grève, ils seront là où ils travaillent, sur les routes. Ça donnera des endroits de rassemblement où des conducteurs qui ne prendront pas leur service, ou ceux qui prendront leur service qui seront éventuellement arrêtés par d'autres militants, par des salariés en grève. Vous savez, les salariés de la route, ils sont sur le bitume. Et le bitume, c'est le seul endroit où ils peuvent se faire entendre.
Je vous le disais en début de journal, la crainte des craintes cette semaine, c'est la mobilisation de samedi, l'acte 4 des Gilets jaunes qui fait craindre de très grandes violences. Les images chaotiques de samedi dernier sur les Champs-Élysées sont dans tous les esprits. Cette semaine, le gouvernement a fait plusieurs annonces pour tenter d'apaiser la colère des Gilets jaunes. Et malgré cela, les appels à manifester essaiment sur les réseaux sociaux. Bonjour Florence Turm.
Oui, bonjour.
Mardi dernier, Christophe Castaner avait appelé les Gilets jaunes raisonnable, selon son expression, selon ses propres termes, à ne pas se rassembler à Paris. Mais il semble que le ministre de l'Intérieur n'ait pas été entendu.
Oui, on peut même dire que c'est une certitude. Partout en France, les appels à manifester samedi, vous le disiez, se multiplient. Toutes les forces de l'ordre seront à nouveau mobilisées, selon un dispositif que la préfecture de police ne dévoilera sans doute pas de manière précise pour davantage d'efficacité. Mais il faut sortir de la logique statique, martèlent les syndicats de policiers, qui suggèrent de faire appel aux blindés légers de la gendarmerie capables de dégager des barricades, aux réservistes de la garde nationale, voire à l'armée, demandent certains. Et surtout, les pouvoirs publics redoutent de nouveau une convergence des activistes d'ultra-droite et d'ultra-gauche qui se sont unis, phénomène quasi inédit selon une source policière samedi dernier sur les points les plus chauds, l'avenue Kléber et la place de l'Étoile autour de l'Arc de Triomphe. Difficile en revanche de démêler les implications et les éventuelles récupérations des uns et des autres sur les réseaux sociaux, où domine ce matin davantage l'hostilité verbale dirigée contre la personne du président de la République que des appels à la violence. Cela dit, Éric Drouet, l'un des instigateurs les plus connus du mouvement des Gilets jaunes, a explicitement appelé à retourner près des lieux de pouvoir parisiens. Une fois qu'on est à l'Élysée, on rentre dedans, a-t-il déclaré lors d'une interview télévisée, vidéo très partagée sur les réseaux sociaux, et derrière lui, plusieurs de ses soutiens apparaissent très motivés. Certains Gilets jaunes, en revanche, semblent vouloir renoncer à rejoindre Paris samedi, au vu des dégradations et des débordements de samedi dernier, compte tenu également, pour certains, des condamnations prononcées par les tribunaux lors des comparutions immédiates, condamnations assorties d'interdiction de se rendre à Paris intramuros. Enfin, il y a aussi des appels au calme qui émanent des Gilets jaunes sur les réseaux sociaux, avec par ailleurs l'apparition récente d'un mouvement baptisé les Foulards Rouges, quelques 10 000 membres sur Facebook qui disent stop au blocage et aux violences.
Merci Florence Turm. Parmi les annonces faites par le gouvernement pour tenter d'apaiser les Gilets jaunes, il y a eu cet engagement d'Édouard Philippe mardi dernier, pas d'augmentation du tarif d'EDF cet hiver, alors que c'était initialement prévu. Réaction ce matin du PDG d'EDF, cette absence d'augmentation devrait être compensée ultérieurement. Bonjour Anne Lorchois.
Bonjour Antoine.
Quelle peut être la solution à ce qui ressemble à un casse-tête pour le gouvernement ?
Eh bien, le PDG d'EDF parle d'expérience. Ce gel des tarifs du gaz et de l'électricité devrait être compensé à un moment ou à un autre et ce rattrapage pourrait faire mal. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Un gel similaire avait été ordonné. Les concurrents d'EDF avaient déposé un recours devant le Conseil d'État qui avait statué en leur faveur. Résultat, une hausse rétroactive des tarifs appliqués pour tous les consommateurs. Le gouvernement va donc tenter de rester dans le cadre de la loi, et ce sera d'autant plus difficile que les associations alertent depuis quelques jours sur une forte hausse des tarifs de l'électricité prévue en 2019. Un tarif qui, en France, rappelons-le, reste largement régulé et inférieur au prix dans le reste de l'Union européenne, mais à cause d'une très forte demande, il devrait augmenter de 8 à 10%. La seule variable d'ajustement pour le gouvernement, c'est donc la partie taxe du prix de l'électricité. Et justement, c'est une plainte qui revient très souvent chez les Gilets jaunes. Ce matin, vous avez pu entendre Nathalie dans nos journaux qui détaillait sa facture en pointant du doigt les 400 euros de taxes qui composaient donc cette facture. La TVA d'abord, la CSPE ensuite, cette taxe affectée normalement au soutien des énergies renouvelables et qui abonde désormais directement le budget de l'État pour aider notamment les ménages les plus modestes à payer leurs factures d'électricité. La TCFE ensuite, reversée aux communes ou départements, et enfin la CTA qui contribue à l'assurance vieillesse des travailleurs du gaz et de l'électricité. C'est sans doute sur la CSPE que la baisse pourrait se faire au détriment forcément des recettes de l'État et du soutien aux énergies alternatives. Bref, c'est encore la fiscalité écologique qui devrait en pâtir. Mais tout est à l'étude, selon François de Rugy, tout pour qu'au 1er janvier, les ménages n'aient pas, encore une fois, le sentiment de payer plus.
Merci Anne-Laure Chouin. Intéressons-nous maintenant au volet politique de ce dossier des Gilets jaunes. On a vu depuis plusieurs jours le Premier ministre en première ligne, les différents membres du gouvernement affronter les représentants du mouvement sur les plateaux de télévision. Mais cette semaine, le chef de l'État reste muet, comme sidéré par cette contestation. Bonjour Anne Fauquemberg.
Bonjour.
Emmanuel Macron est la cible de cette contestation. Sa popularité est en chute libre et pourtant il garde le silence.
Oui, le président ne s'est pas exprimé officiellement depuis son retour du G20 dimanche dernier. Et selon l'Élysée, il ne prévoit pas de prendre la parole avant samedi inclus. C'est à mettre en lien évidemment avec ce que vous venez de raconter, Antoine, à savoir ses appels à manifester sur les réseaux sociaux et ses craintes de nouvelles violences urbaines. Emmanuel Macron réserve sa parole pour qu'elle ait du poids, évidemment, si le contexte l'exige. C'est donc Édouard Philippe qui est toujours en première ligne. Un Premier ministre qui a pu reprendre appui hier soir sur sa majorité, qui a voté d'un bloc le plan de mesures débattu à l'Assemblée nationale. Mais un appui de courte durée, car dans le même temps, il semble que l'Élysée ait corrigé son Premier ministre. Oui, la hausse de la taxe sur les carburants est bel et bien abandonnée. Édouard Philippe avait évoqué un peu plus tôt un possible renoncement si et seulement si aucune solution n'était trouvée lors de la concertation de ces prochains mois. Depuis ce matin, le président de l'Assemblée nationale monte au créneau. Richard Ferrand explique que l'Élysée a simplement voulu dire de manière simple ce qu'Édouard Philippe a dit hier de façon élaborée. Ce n'est pas un cafouillage, renchérit Marc Fesneau, ministre en charge des relations avec le Parlement. Mais l'opposition de droite comme de gauche, qui a été très virulente hier dans l'hémicycle, s'engouffre déjà dans la brèche. La France insoumise, par exemple, Alexis Corbière, quand bien même le président de la République souhaiterait se séparer d'Édouard Philippe, attention à ne pas utiliser ce fusible trop rapidement, prévient le député. Un député qui rappelle que c'est la figure du président qui est visée par les Gilets jaunes et qui a utilisé trop vite le fusible institutionnel. L'électricité pourrait remonter encore plus rapidement jusqu'au chef de l'État.
Merci Anne Fauquemberg. Et pendant ce mouvement des Gilets jaunes, les principaux dirigeants de la planète sont réunis en Pologne pour la fameuse COP24 sur le réchauffement climatique. Ils suivent avec inquiétude le recul du gouvernement sur les taxes des carburants. Bonjour Véronique Rebérot.
Bonjour.
Une brèche a été ouverte dans l'engagement environnemental de la France.
Oui, il y avait déjà jusque-là, avant ces reculs du gouvernement, ceux qui se réjouissaient des difficultés d'Emmanuel Macron face aux Gilets jaunes. Le premier d'entre eux, Donald Trump, le président américain, qui avait tweeté mardi soir « Je suis heureux que mon ami Emmanuel Macron et les manifestants soient tombés d'accord sur la conclusion à laquelle j'étais parvenu il y a 2 ans. L'accord de Paris est irrémédiablement mauvais car il augmente le prix de l'énergie pour les pays responsables tout en blanchissant les pires pollueurs. » Fin de citation, tweet d'un climato-sceptique revendiqué. Mais plus grave, ce sont les effets de la décision du gouvernement qui immanquablement discrédite la parole de la France à l'étranger. Si le champion de la Terre, Emmanuel Macron, s'est vu décerner le titre en septembre dernier par les Nations Unies, si le président français n'est pas en capacité d'accompagner et de faire passer sa propre transition énergétique dans son pays, quelle légitimité a-t-il encore maintenant sur la scène internationale? Quel mauvais exemple. La brèche est ouverte, elle agite depuis ce matin les couloirs de la COP24 qui se déroule donc en Pologne. Dans les couloirs du sommet sur le climat, eh bien, on déplorait déjà l'absence de leadership dans cette lutte contre le réchauffement climatique. On s'inquiète maintenant de voir mise à mal la légitimité de la France apportée à l'avenir l'accord de Paris. Le fait, ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, a beaucoup de mal à passer, surtout, comme le souligne l'eurodéputé Yannick Jadot ce matin, que l'annulation de la taxe carbone montre un recul sur l'écologie sans avancer sur la justice sociale.
Merci à vous, Véronique Rebérot, invitée de ce journal, le député LREM Mathieu Orphelin. Bonjour monsieur.
Bonjour à vous.
Vous êtes ancien militant d'Europe Écologie Les Verts, ancien porte-parole de la Fondation Nicolas Hulot. Est-ce que l'écologiste que vous êtes a souffert ces derniers jours ?
J'ai souffert pour le pays parce qu'on est dans une situation très difficile aujourd'hui en France et effectivement ça fait mal au cœur de voir ces affrontements, de voir il y avait cette colère initiale des Gilets jaunes qu'il fallait entendre je crois et qui exprimait une vérité aussi, le fait qu'on n'ait sans doute pas mis assez de justice sociale dans notre politique depuis 18 mois, le fait qu'on n'a pas su assez accompagner les citoyens dans cette transition. Donc cette colère, elle a été entendue, c'était la colère initiale des gilets jaunes sur le pouvoir d'achat, bien plus d'ailleurs que sur l'écologie. Moi, j'ai rencontré des dizaines de gilets jaunes, il n'y en a pas un seul qui m'a dit qu'il ne croyait pas au réchauffement climatique ou qu'il était contre l'écologie. C'est pas ça qu'ils nous disent. Ils nous disent, on n'arrive plus à finir les fins de mois, il faut nous accompagner. Donc voilà, donc il y a cette colère, mais j'ai surtout mal au cœur pour le pays depuis quelques jours parce que je vois clairement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la récupération de la colère des gilets jaunes par les extrémistes, par ceux qui veulent que notre système démocratique s'effondre, qu'il soit d'extrême gauche ou de l'extrême droite, et c'est eux qui aujourd'hui organisent le fait de faire dégénérer sciemment, volontairement, faire dégénérer les manifestations samedi prochain à nouveau à Paris, mais aussi dans d'autres lieux sur le territoire. Ils appellent à aller occuper, prendre le contrôle de certains bâtiments emblématiques de notre République. Donc ça, c'est pas la colère des gilets jaunes. Ça, c'est des mouvements extrêmes qui veulent que notre démocratie mette un genou à terre. Donc moi, j'appelle tout le monde samedi, et notamment les gilets jaunes, la grande majorité, qui sont pas du tout, qui sont pacifistes, qui sont là pour dire on s'en sort pas, etc., de ne pas être les complices des casseurs qui veulent organiser la fin de notre démocratie, la crise de régime. Et donc voilà, c'est pour ça que moi aujourd'hui j'ai mal au cœur, et on est là pour tenir. On fera le bilan politique de la séquence plus tard, mais en tout cas sur la suspension, l'arrêt de la fiscalité écologique, je crois que moi ce que je retiens, la leçon qu'on doit tous retenir, c'est qu'effectivement, on n'avait pas assez de mesures pour accompagner les Français, les entreprises également, dans cette transition. Et donc, il faut en faire plus.
Question de Sophie Delpont du service politique.
Et bonjour Mathieu Orphelin, vous parlez d'irresponsabilité politique de la part de personnes qui appartiennent à l'opposition aujourd'hui. Vous pensez notamment à François Ruffin, le fait qu'il n'ait pas voulu ce matin appeler à lancer un appel au calme, à ne pas se mêler au cortège.
Oui, moi ça me choque vraiment l'attitude de François Ruffin, l'attitude hier de Jean-Luc Mélenchon, d'autres. Ils veulent que ça se termine mal. Ils veulent entre guillemets leur revanche politique. Ils veulent le chaos. Et je crois que c'est pas responsable. Au contraire, j'ai apprécié certains députés dans d'autres groupes politiques avec qui les différences politiques avec nous sont très fortes, mais disant. Gilets jaunes, je comprends vos revendications, mais n'allez pas manifester samedi, parce que vous serez les otages de ceux qui veulent que la situation et la démocratie dégénèrent. Et donc oui, je crois vraiment que François Ruffin prend une lourde responsabilité aujourd'hui quand il essaye de mettre de l'huile sur le feu.
François Ruffin dit que ceux qui mettent de l'huile sur le feu sont ceux qui sont actuellement au pouvoir. Ceux qui ont finalement poussé dans la rue ces personnes qui dénoncent une injustice fiscale. Et François Ruffin qui souligne que 80% des Français soutiennent encore les gilets jaunes et donc soutiennent que le cap n'est pas bon.
Il y a la concertation de 3 mois, le grand débat sur les territoires qui s'ouvre, et moi je pense que ressortira de là plus de justice fiscale, plus de justice sociale, plus de justice écologique, ce qui a manqué au cours des 18 premiers mois. Mais François Ruffin, il sait très bien ce qu'il fait là. Il sait très bien ce qu'il fait. Il met de l'huile sur le feu. Il est là dans un jeu politique très dangereux. Donc voilà, chacun ses responsabilités. Moi, je crois que tous les responsables politiques, tous les responsables, tous les citoyens, les gilets jaunes, les autres, tout le monde, on a tous la même responsabilité. C'est samedi qui est le moins d'affrontements possible. Donc quand on voit certains responsables politiques comme François Ruffin se délecter d'avance des problèmes et des affrontements qu'il y aura samedi, ben oui, ça me fait mal aux tripes.
Est-ce qu'il faut revenir sur la suppression de l'ISF ? Est-ce qu'il faut la rétablir pour calmer le jeu, justement, envoyer ce signal fort ?
Moi, je pense qu'il faut plus de justice sociale dans la politique qu'on met en œuvre.
Alors, donc il faut aller jusqu'à éventuellement l'ISF, rétablir l'ISF ?
Non, l'ISF a été transformé en IFI sur la partie immobilière depuis plus d'un an. Donc là, aujourd'hui, on peut évaluer ce nouvel instrument fiscal. Et ça, c'est important de voir si effectivement ceux qui ont gagné grâce à cette transformation de l'ISF ont bien réinvesti dans l'économie réelle française.
On n'a aucun élément pour regarder
donc,
ça aujourd'hui.
Mais non, mais l'évaluation, elle commence. Ça fait là un peu moins d'un an. Enfin, ça fait un an que c'est mis en œuvre. Donc, on va pouvoir évaluer ça. Donc, ça, première chose. Deuxième chose, il y a d'autres manières d'avoir des rentrées fiscales ou d'avoir plus de justice sociale. Il y a encore un certain nombre de niches fiscales qui bénéficient aux plus riches. La niche Copé, par exemple, sur les holdings financières, etc. Ça, on a commencé à la raboter, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. On pourrait réfléchir à comment on fait contribuer plus sur l'impôt sur le revenu, la tranche supérieure. L'impôt sur le revenu, c'est 70 milliards d'euros de rentrée fiscale. Il y a peut-être des choses qu'on peut ajuster pour les plus riches. Il y a une autre mesure qui n'était pas dans notre programme. Il y a une mesure... dans notre programme, on avait la baisse de taxe d'habitation pour 4 foyers sur 5. C'était une très bonne mesure. C'est une très bonne mesure.
Qui a du mal à se mettre en place, d'ailleurs.
Non, on la met en place. Voilà, un tiers des Français, sauf ceux où les élus locaux ont augmenté, en ont profité pour augmenter l'imposition. Mais c'est un autre débat. Mais pour 4 Français sur 5, c'est une très bonne mesure. Par contre, l'étendre, comme c'est actuellement prévu pour des raisons constitutionnelles, mais dont on peut discuter, etc., étendre cette mesure aux 20% les plus riches, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça coûtera 10 milliards d'euros supplémentaires par an. Eh bien là, on a une mesure. Il faut qu'effectivement, on n'ait pas cette suppression de la taxe d'habitation pour les 20% les plus riches. Pour l'instant, elle est prévue à partir de 2021. Et que, au contraire, on ait une contribution plus importante des foyers les plus aisés aujourd'hui en France.
Mathieu Orphelin, vous appartenez à une association, un collectif transpartisan à l'Assemblée nationale. 135 députés en font partie. Ce collectif s'intitule « Accélérons la transition ». Ça passe par aucune taxe écologique aujourd'hui ?
Non, je crois qu'il faut ce basculement sur la fiscalité écologique, mais pour que ça marche, et on est quand même un certain nombre à avoir alerté aussi bien des parlementaires que Nicolas Hulot l'avait fait, et je crois que c'est une des raisons aussi de son départ du gouvernement, de dire on n'a pas assez de mesures d'accompagnement des citoyens, des collectivités, des entreprises dans cette transition écologique. La transition écologique, ça ne peut pas être convoqué simplement quand il faut des rentrées fiscales en plus. Donc ce basculement vers la fiscalité écologique, il faut accompagner ceux qu'en ont besoin, les classes moyennes inférieures, les Français qui ont les moins, à s'engager dans cette transition. Il faut leur redonner du pouvoir d'achat. Donc je crois qu'on a été un certain nombre à alerter, on va continuer à le faire. Il y a le grand débat qui s'ouvre à tous les acteurs, effectivement, de pousser ces mesures d'accompagnement. On n'en a pas eu assez, il en faut plus.
Merci. Merci Mathieu Orphelin.
Merci beaucoup à vous Mathieu Orphelin. Merci également à Sophie Delpont et Georges Thau qui assuraient les moyens techniques à l'Assemblée nationale. Ralentir la production pour faire monter les prix, c'est ce que souhaitent les pays producteurs de pétrole. Le prix du baril a diminué d'un tiers ces deux derniers mois. Les membres de l'OPEP veulent s'entendre aujourd'hui ou demain à Vienne pour geler une partie de leur production. Une décision qui pourrait remettre en question certains diplomates, notamment certaines diplomaties, notamment entre Donald Trump et Mohamed Ben Salman, Olivier Poujade.
Cette baisse de 30%, les membres de l'OPEP affirment qu'elle menace la stabilité de leur budget, particulièrement l'Arabie Saoudite, dont les finances vacillent dès l'instant où le baril descend en dessous des 88 dollars. Pour ces pays-là, il est donc urgent de trouver un arrangement pour redonner un coup de fouet aux tarifs. Ils sont a priori d'accord pour le faire. Vladimir Poutine et le prince saoudien Ben Salman se seraient entendus sur le principe pour limiter les volumes de production. Le nœud du problème tourne justement autour de ces volumes de production. Une baisse d'environ 1 million de barils jour est envisagé, mais cette décision pourrait provoquer l'agacement des États-Unis. Depuis Washington, Donald Trump observe de très près cette réunion des membres de l'OPEP et les a une nouvelle fois mis en garde hier sur Twitter. Le monde ne veut pas d'une hausse des prix du pétrole. Donald Trump n'en veut pas pour protéger les conducteurs américains d'une flambée du prix à la pompe, protéger donc ses électeurs. Et pour peser dans ce débat où le Saoudien Ben Salman est en première ligne, Trump s'appuie sur un autre dossier, celui de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Soupçonné d'avoir commandité ce meurtre, Mohamed Ben Salman ne peut compter que sur un seul soutien, celui des États-Unis. Il a dans un premier temps augmenté son volume de production de pétrole pour satisfaire la volonté de Trump. S'il faisait volte-face aujourd'hui, tout porte à croire que le prince saoudien Ben Salman se retrouverait totalement isolé dans l'enquête sur le meurtre de Jamal Khashoggi.
La trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine est-elle déjà terminée ? La directrice financière du géant des télécommunications chinois, Huawei, arrêtée au Canada le 1er décembre, risque l'extradition vers les États-Unis. Madame Meng, qui est aussi la fille du fondateur de Huawei, est soupçonnée par les États-Unis d'avoir violé les sanctions commerciales contre l'Iran. La Chine exige des explications et demande la libération immédiate de Madame Meng. Cette affaire rappelle le cas d'un autre équipementier chinois, ZTE, qui avait plaidé coupable l'an dernier pour avoir fourni des technologies à l'Iran. Le bras de fer technologique entre les États-Unis et la Chine se poursuit donc à Pékin. Les précisions de Dominique André.
Officiellement, on ne connaît pas les raisons pour lesquelles Madame Meng, fille du fondateur de Huawei, a été arrêtée lors d'une correspondance au Canada entre deux vols. Elle est en détention et comparaîtra demain devant un tribunal. Mais des informations insistantes circulent sur un lien avec l'Iran. Depuis 2016, le bureau du procureur de Brooklyn à New York enquêtait sur Huawei. Il soupçonnerait le numéro 2 mondial des smartphones de commercer avec l'Iran et d'autres pays en violation des sanctions unilatérales instaurées par Washington. ZTE, un autre équipementier chinois, avait déjà subi les foudres des États-Unis l'an dernier en livrant ses produits. Il fournissait illégalement à l'Iran des technologies américaines. Sanctionné, ZTE a payé une amende de 845 millions d'euros. Huawei indique n'être au courant d'aucun agissement répréhensible. L'affaire pourrait cependant avoir d'autres répercussions. Les bourses en Asie réagissent mal à cette nouvelle qui montre que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ne porte pas que sur les tarifs douaniers, mais on le sait bien, sur des enjeux beaucoup plus stratégiques. Les États-Unis veulent garder leur place de leader mondial dans les nouvelles technologies, source de croissance économique. Or, les États-Unis considèrent que Huawei et son réseau de téléphonie mobile 5G représentent un véritable danger.
Cet après-midi, il va pleuvoir sur les Hauts-de-France et la Normandie. Beau temps sur les côtes méditerranéennes et la façade atlantique. Ailleurs, le ciel sera couvert. Côté température, on reste dans la douceur. 11 à Grenoble, 14 à Paris, 19 à Perpignan. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Prochain journal à 18h avec Aurélie Kiefer.